Tu peux pas contester, tu peux contester une loi, mais c'est compliqué, là.
Ce qui m'agace, c'est que du personnel derrière.
Mais excuse-moi, ça veut dire, Vince, que dans le projet d'entente, il y a quelque chose qui pourrait effectivement être renversé par un tribunal. C'est ça que ça veut dire.
Tout à fait.
C'est extrêmement inquiétant ce qui est en train de se passer.
Et gênant aussi un peu.
Et gênant. Très bon point. C'est très gênant. Moi, je pense que Québécois, c'est le meilleur partenaire qu'on pouvait avoir, tant mieux. Mais veux-tu le savoir, c'est quoi qui est pas correct dans l'entente, par exemple? Veux-tu le savoir, c'est quoi la largesse qui existe? Et que j'aime pas ça, ce qui est en train de se passer. C'est pas beau.
On va attendre les détails avec M. Dess sur place, mais je pense qu'on a l'essentiel de la nouvelle présentement.
Exactement. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Dès suit ça, puis on va s'en reparler.
Avec les réactions du maire de Québec.
Exactement. On va s'en reparler dans quelques instants. Il est 4h03 minutes. Ça fait trop longtemps que je fais patienter notre invité qui a la gentillesse de nous jaser cet après-midi. C'est sans doute un homme très occupé. Il est le responsable des dossiers de dopage sportif à l'AQMS. C'est l'Association québécoise des médecins du sport du Québec. Le docteur Richard Blanchet avec nous. Docteur Blanchet, bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, très bien, vous-même.
Merci beaucoup et merci de votre patience, monsieur.
Dans
cette semaine du 16 mai, votre organisation, l'AQMS, l'Association québécoise des médecins du sport, va émettre une série de recommandations relatives à un sujet qui, à mon sens, n'est pas traité suffisamment. Moi, je dois dire, docteur Blanchet, que c'est une inquiétude que j'ai. Les boissons énergisantes et le sport, vous parlez d'une combinaison dangereuse. Pourriez-vous nous donner un peu de détails sur ce que vous avancez?
En fin de compte, votre préoccupation est aussi la nôtre. Écoutez, même moi, en médecine du sport, ça fait longtemps qu'on voit le marché des boissons énergisantes. On se disait toujours, voyons, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que ça améliore la performance? Est-ce que si on a 13 ans, c'est dangereux d'en prendre? Si on a 18 ans, c'est dangereux? Si on a 53 ans, c'est dangereux? Fait que, bref, on a fait une revue de littérature là-dessus, puis on a tenté de sortir ce qui était scientifiquement prouvé pour tenter de dire, est-ce que pour répondre à ces questions-là? Puis notre conclusion, en fin de compte, c'est que ça améliore pas la performance sportive, puis si c'est pris en quantité adéquate, il y a habituellement pas de danger, sauf que si c'est pris en quantité excessive, il y a des cas qui sont rapportés de complications cardiaques sévères dont on n'a pas trouvé d'autre raison que la prise excessive de boissons énergisantes qui aurait éventuellement pu causer un décès.
Alors, si par exemple, je prends un Red Bull, un Monster, un peu importe la marque, comme ça, parce que j'aime ça, parce que ça me pompe un petit peu, il y a pas de problème.
En tant que tel, si c'est un par jour, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème à court terme. À long terme, c'est la quantité de sucre, parce que ces contenants-là contiennent entre 4 et 14 cuillères à thé de sucre chacun. Alors, à long terme, oui, ça peut mener à des problèmes d'excès de poids, donc c'est pas bon pour la santé, c'est clair. Puis je veux dire, si on...
Mais au même titre que si je buvais 3 coques, là.
C'est la même chose.
Bon, OK.
C'est la même chose. La proportion est la même. C'est pas mieux. Alors, à long terme, c'est la quantité de sucre qui est problématique. Mais à court terme, par exemple, il y a un coureur de motocross australien de 28 ans qui il a décidé qu'il gagnerait sa course. Alors, il a décidé de prendre 8 Red Bull en l'espace de 5 heures. Il a fait un arrêt cardiaque. Alors, on n'a trouvé aucune autre raison que la prise excessive de boissons énergisantes pour expliquer son arrêt cardiaque. Ça, c'est en Australie. Mais maintenant, les cardiologues de l'hôpital Laval nous disent, écoutez, on voit maintenant des jeunes pour des arrêts cardiaques ou pour des problèmes cardiaque important, qu'on fait une investigation, puis tout est normal, on n'a aucune autre cause que la prise éventuelle de quantité excessive de boissons énergisantes. Alors nous autres, on dit aux gens, écoutez, soyons prudents par rapport à ça, puis n'allons pas vers les excès. Puis encore plus, c'est parce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque personne a une réponse génétique prédéterminé à la caféine. Ça veut dire que la caféine, c'est un stimulant. Oui, ça stimule, ça diminue le besoin de sommeil, ça diminue la sensation de la douleur. Alors, en tant que tel, il y a une réponse génétique à ça. Alors, quelqu'un, vous connaissez des gens qui prennent 4 cafés le samedi soir, puis 15 minutes après, ils sont capables de ronfler, alors qu'il y en a d'autres qui prennent un café qui ne dorment pas de la nuit.
Ouais.
Alors, ça, c'est une réponse génétique. Alors, chaque personne a une réponse qui est variable à ça. Puis, si quelqu'un est plus propice à répondre de manière dangereuse, il peut avoir une augmentation de sa fréquence cardiaque, sa tension artérielle, de manière plus dangereuse. Alors ça, il faut faire attention. Puis associé à l'activité physique où la fréquence cardiaque s'augmente, bien là, à ce moment-là, il y a encore un problème, il y a encore un danger.
Hey Doc, j'aimerais qu'on clarifie physionomiquement qu'est-ce que ça fait, des produits comme la taurine au cœur, mais au niveau physique, les modifications un peu exagérées que ça peut apporter, parce que c'est bien beau dire c'est mauvais, Mais j'aimerais que les gens aient un pourquoi, tu sais, une raison.
Bien sûr, bien sûr. En fin de compte, la taurine, c'est une acide aminée dont on ne connaît pas le rôle exact, puis qu'on pense qu'il jouerait sur le cœur. Effectivement, c'est un stimulant au niveau de la fréquence cardiaque. Alors ça, on essaie de déterminer exactement c'est quoi son rôle, puis le docteur Poirier à Québec est en train de faire une étude pour tenter de démontrer exactement c'est quoi la dangerosité ou non de la taurine qui est dedans. Parce que dans le fond, si on prend 4 cafés de grosseur moyenne, pourquoi on a moins de risques si on prend 4 boissons énergisantes qui contiennent à peu près la quantité équivalente de la caféine? Alors pourquoi c'est plus dangereux de nous autres, on pense que c'est plus dangereux prendre 4 boissons énergisantes que prendre 4 cafés. Pourquoi c'est comme ça? Alors, on n'est pas toujours capable de déterminer exactement. Mais ce que ça fait, la taurine en tant que telle, c'est que ça, on pense que c'est une action sur le muscle cardiaque. C'est ce qu'on essaie de démontrer maintenant.
Et j'ose croire qu'en sollicitant le muscle cardiaque, c'est-à-dire en faisant un exercice d'importance, là, j'allais dire violent, mais tu sais, fort, que évidemment, ça aide pas, là. Non seulement on lui fait mal en lui faisant surconsommer de la taurine, mais en plus, on le fait forcer. C'est une mauvaise combinaison.
C'est en plein ça. Là, on court après les risques. On court après les risques, puis les risques cardiaques en tant que tels, les risques au point de vue cardiaque, c'est d'avoir des troubles du rythme qui peuvent même, jusque même, mener à un infarctus. Alors, tu sais, ce jeune-là de 28 ans en Australie, qu'on a objectivé ça, ben écoutez, lui, il a pris 8 Red Bull en l'espace de 5 heures, puis je veux dire, il a fait un arrêt cardiaque. Alors, puis si on prend ça au long cours, si on prend 1 ou 2, 3 boissons énergisantes par jour, ben là, oui, on va être stimulé, mais à un moment donné, ça peut causer de l'insomnie, ça peut causer des tremblements, ça cause de l'insomnie. Ben là, on est plus fatigué. Fait qu'au lieu d'avoir le cycle qu'on veut se stimuler, ben à un moment donné, si on en prend un petit peu plus, ben là, on aura le cycle inverse. Alors, c'est dans ça qu'on veut pas tomber.
Si j'ai un gros match ce soir, je suis fatigué. Psychologiquement, je suis déjà habitué à me prendre un Red Bull ou peu importe, un Monster avant mon match. Puis on dirait que psychologiquement... Mais est-ce qu'il y a de quoi à dire à l'athlète,
ben
peu
oui.
importe le sport,
ben
de
oui.
se faire confiance, puis de commencer son match, puis que tout l'engrenage va se remettre à bien aller?
Bon, en fin de compte, il y a une question de quantité que vous prenez. Si vous en prenez une canette qui est de grosseur moyenne, qui contient l'équivalent d'un café, d'abord, c'était clairement démontré que ça n'améliore pas la performance. Ça fait pas patiner plus vite, ça fait pas lancer la balle plus fort, ça fait pas courir plus vite. Alors ça, il n'y a pas d'amélioration de la performance. On se sent davantage stimulé, mais il n'y a pas d'amélioration de la performance en tant que telle. Si vous prenez 3 ou 4 boissons énergisantes par jour, vous avez développé de la tolérance. Donc, vous allez développer de la dépendance puis des effets secondaires si vous les arrêtez d'un coup. Mais si vous prenez une boisson énergisante parce que avant votre match de hockey, alors que vous avez 25-30 ans, puis vous décidez de pas en prendre au match suivant, ça changera pas grand-chose. Sauf que si vous jouez un match de hockey, vous avez pas bien mangé, vous avez pas mangé, vous avez pas bien dormi, ben je veux dire, c'est sûr que vous aurez des conséquences de ça. Alors c'est souvent plus facile de prendre une boisson énergisante, de dire oh ben ouais, je vais la prendre, y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait si on a 52 ans? Si peut-être qu'on fait de la haute pression puis on le sait pas, peut-être qu'on commence à être diabétique puis on le sait pas, puis on prend notre boisson énergisante, notre fréquence cardiaque va monter encore, on fait de l'activité physique, ça monte encore, on n'est pas hydraté parfaitement, ça monte encore, là, il y a un risque d'avoir des problèmes cardiaques, ça, c'est dangereux.
L'hydratation, bon point, ça déshydrate, ça, ces produits-là?
Ça déshydrate, mais ce qu'il faut dire, c'est que pendant l'activité physique, l'effet déshydratant est peu actif. Ça déshydrate parce que c'est de la caféine. Si on est le soir, si on est pendant le jour, on va aller uriner un petit peu plus. Mais pendant l'activité physique, honnêtement, l'activité diurétique, le fait d'uriner en tant que tel, on n'urine pas plus parce qu'on a pris de la caféine, donc qui est contenue dans la boisson énergisante.
Intéressant. Y a-tu un âge en particulier où c'est plus... Je parle pour les plus jeunes, parce qu'ils en veulent tous. Là. Moi, je me batte avec ça, je vous dirais, presque quotidiennement.
Ah, oui.
Docteur Blanchette, à partir de quel moment c'est pas une bonne idée? Là, de...
Ben moi, je vous dis que médicalement, c'est jamais une bonne idée.
Okay.
Ça n'améliore pas la performance. Alors, tu sais, c'est affreux. Moi, je vous dis, le coup qui me dit, je veux qu'on embarque là-dedans, les médecins du sport, c'est quand j'ai vu mon fils, qui est entraîneur d'une équipe Pee-wee de A, dans le tournoi Pee-wee, de la mi-décembre à l'aréna de Sillery, on décide quelle équipe va représenter les petits remparts. J'étais là, puis un père de famille qui arrive avec 2 Red Bull, donne ça aux 2 petits gars en arrière de moi qui avaient un vrai 12 ans. J'ai dit, soit ce père-là, c'est un imbécile, ou soit ce père-là, il comprend pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans.
Alors, dans l'action, c'est un gros match, prends un Red Bull, tu vas être meilleur.
Ben oui, mais c'est une... c'est une fausse idée. C'est pas vrai, ça améliore pas la performance.
Et quelle sorte de message ça donne aussi? Pour que tu sois meilleur dans les grandes, dans les grands événements, il faut que tu prennes quelque chose.
Alors, imaginez si on en prend un à 13 ans, qu'est-ce qu'on va faire à 14, 15, 16, 17, 18? Alors, on a une action là-dessus. Fait que nous autres, notre message, c'est pas de faire la morale aux gens, mais dire, écoutez, là, est-ce qu'on est en train de développer une génération où pour jouer notre match d'hockey hebdomadaire, ça prend une boisson énergisante? Parce que non, là, c'est pas correct, là. C'est
intéressant. Docteur Blanchet, merci de nous avoir parlé cet après-midi.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Docteur Richard Blanchet est responsable des dossiers de dopage sportif à l'AQMS. C'est l'Association québécoise des médecins du sport. Le Red Bull, le Monster, le whatever the hell you call it.
La NOS.
Ça change pas, ça vous fera pas courir plus vite. Votre snap arrivera pas plus rapidement sur les pads du gardien de but.
Mais je pense que les gens le savent, le pire. Mais tu sais, c'est psychologique. Hein. T'es fatigué, t'as une grosse game, tu veux pas sous-performer. Peu importe le calibre, même au niveau très, très amateur, il y a des gens qui... Mais moi, le problème avec moi, c'est que j'aime ces produits-là, je trouve que ça goûte bon. Puis parfois, je le mixe avec l'alcool, ça non plus, c'est pas très conseillé en passant. Là. Puis c'est bon de se le faire dire une fois de temps en temps. Ça te rendra pas meilleur. Puis même si dans ta tête, tu penses que t'es plus prêt à jouer un match, tu l'es pas.
Présentement, à l'Hôtel de Ville de Québec, Régis Labeaume et Agnès Maltais, assis à la même table... Le PQ qui vole au secours de son fils égaré, peut-être, Régis Labeaume, en proposant un projet de loi privé qui vise à empêcher toute poursuite concernant la validité de l'entente entre la Ville de Québec et Québécois pour la gestion de l'amphithéâtre de Québec. Donc, ça vient couper les jambes, littéralement, à l'ancien directeur général de la Ville de Québec, Denis de Belleval. Mais attention, c'est un projet de loi privé, présenté par une péquiste. Pensez-vous vraiment que les libéraux vont voter en faveur de ça? Ils sont un peu fourrés, remarquez. Ils ont mis 200 millions de dollars d'argent des taxes au BAT dans ce dossier-là. Est-ce que les libéraux, Jean Charest lui-même, était le premier à l'annoncer? Au départ, rappelez-vous, il disait 45% de la facture, on va l'assumer sans même savoir combien que ça allait coûter. Puis après ça, ils ont dit, ça coûte 400, parfois on paye 200. Et là, il y a une contestation qui pourrait évidemment reporter au calendrier grec l'affaire. Voici qu'on propose un projet de loi. Et c'est pas le Parti libéral. Pourquoi il est pas allé voir sa mamade avec ça? Pourquoi c'est pas le Parti libéral? C'est du PQ. Regarde, si Régis Labeaume refuse de dire qu'il est foncièrement péquiste, il est mal fourré en cet après-midi. Parce que le plus gros projet de sa carrière politique, c'est peut-être le PQ. Ou en tout cas, c'est avec l'aide du PQ qu'il espère le sauver.
C'est pas des
maudits jokes.
En nous promettant qu'il allait avoir un amphithéâtre flambant neuf, qu'il allait se bâtir ici dans la ville, lequel il est responsable. C'est comme ça qu'il s'est fait élire. Et là, on est en train d'assister à la démarche, là, si je me trompe pas.
Moi, j'ai peur. J'aime pas ça voir ça. Ça veut simplement dire que Denis de Belleval, moi, j'aime pas la démarche de M. de Belleval du tout. Je trouve que ça fait vieux chialeux, puis radoteux, puis chiqueux de guenille, puis quelqu'un qui est peut-être en train de défricher le terrain pour préparer une opposition à Régis Labeaume aux prochaines élections. Puis tout ça est animé par des ambitions ou des motifs politiques. Denis de Belleval est l'ancien directeur général de la Ville de Québec sous Jean-Paul Lallier, qui aurait jamais fait un projet pareil. Fait que, tu sais, j'ai toujours pensé que son idée et son histoire là, de poursuite, là, que c'était teinté par des motifs politiques. Mais là, ce que Régis Labeaume et le PQ viennent dire aujourd'hui, c'est que de Belleval, il a raison. Ça veut dire qu'il y a un point. Ça veut dire qu'on est tellement pas sûr d'être capable de le contrer au plan juridique qu'on va changer la loi. C'est tout aussi simple que ça. On va faire voter une loi, on va faire fondre ça dans une loi. Merci, bonsoir, tu peux plus l'attaquer.
C'est pas mon préféré, mais est-ce que je peux me permettre d'être mal à l'aise par rapport à la situation présente?
Tu peux te permettre d'être mal à l'aise par rapport à la situation présente.
En tant que payeur de taxes de la vieille capitale que je suis.
Je le suis, puis j'aime pas ça, moi non plus, là. J'aime pas ça, pas en tout, de voir ce qui est en train de se passer. On a laissé Vincent Dessureau à l'Hôtel de Ville de Québec. En fait, on l'a envoyé là, en fine épouvante.